Radio éphémère 89.1 MHz.
C'est carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, de l'électronique les doigts dans le nez, un FPGA dans l'espace, un analyseur logique, et on compte les reprogrammations. Notre invité est Fred Requin, alias French Shark, concepteur de FPGA. L'équipe aujourd'hui d'Askrit chez Benoît. Et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux.
CPU carré petit utile.
Bonjour Daskritch.
Bonjour.
Bonjour Fred Requin.
Bonjour.
Bonjour le public.
Oui.
Merci d'être encore avec nous depuis la précédente émission. Et merci à Artilect de nous recevoir pour cette émission. Nous continuons sur le sujet des FPGA en hommage à notre ami Grégory Estrade, aussi connu sous le pseudonyme de Torlus, définitivement parti trop tôt, à qui on doit de nombreuses créations sur FPGA, dont la console NEC TurboGrafx, la Sega Mega Drive, un convertisseur Péritel pour l'Apple IIc, le Gimov 2000, et j'en passe. Ami Greg, on pense à toi où que tu sois. Tu vois, Tuco, il y a deux sortes de tutoriels sur les FPGA. Ceux qui t'apprennent à programmer un FPGA sans que tu comprennes ce que tu fais, et ceux qui t'expliquent encyclopédiquement la circuiterie contenue dans un FPGA au risque de te faire décrocher avant d'arriver à la première ligne de code. Dans une prochaine chronique, je case anticonstitutionnellement, je vous jure que je le fais.
Ok.
Une question qui taraude les softeux se mettant au FPGA, voire ceux qui ont foiré un filetage en se trompant de vis au remontage, c'est quel est l'équivalent FPGA de la quantité de mémoire programme d'un microcontrôleur, ou encore, comment comparer un nombre de lignes de code VHDL avec un nombre de lignes de code Python? C'est les luttes. Oubliez la block RAM. Dans un FPGA, la block RAM ne sert pas à stocker le code, mais seulement les données. On peut y mettre une mémoire vidéo, une file de port série, une trame réseau, un tampon d'accès disque, mais pas un programme, non. C'est parce qu'un FPGA n'est pas un Stored Program Computer. Un ordinateur à programme enregistré. Le concept génialissime du non moins génial Alan Turing, qui nous a donné tous nos ordinateurs anciens comme modernes. Faudrait qu'à rechercher architecture de von Neumann. Un FPGA, ce n'est pas un ordinateur, ou pas forcément, ou du moins pas encore. Non, c'est comme une carte électronique entière dont vous choisiriez chaque circuit intégré, mais condensé dans une seule puce. Donc la bonne mesure, ce serait une sorte d'équivalent du nombre de circuits intégrés simples comme un 74HC00 qui contient 4 portes non-et.
Mais c'est quoi une porte non-et ?
Très simple, c'est une porte dont la sortie vaut faux seulement lorsque toutes ses entrées valent vrai.
J'ai rien compris.
Non mais tu le fais exprès. T'es juste bourré parce qu'on n'est plus en janvier.
Ouais.
Alors qu'une porte NAND, t'arrives à en construire une, tu peux refaire toute l'informatique à partir de ça.
Non. Et...
Ah ouais, je vois le problème. En électronique, un circuit, c'est un agencement de composants dont un courant électrique fait le tour, d'où le terme circuit. Un circuit numérique, c'est un circuit qui manipule seulement deux valeurs de voltage pour représenter vrai et faux ou 0 et 1, ce qui est bien commode pour compter en binaire.
Compter en binaire, c'est pas commode.
T'as bien raison, je préfère compter en hexadécimal, mais on s'égare.
Promis, je me concentre.
En électronique numérique, une porte logique, c'est un petit circuit qui combine deux entrées binaires en une sortie. Il y a des portes et, des portes non, aussi appelées inverseurs, il y a un piège, une seule entrée. Des portes ou exclusifs, etc. On appelle ça la logique booléenne ou algèbre de boules. Et non, mon petit Daskritch, ce n'est pas sale. C'est comme la méthode agile, c'est la logique à George Boole, un mathématicien anglais du 19e siècle. Donc, il faut dire quelle fonction est calculée par la porte logique. Comme il n'y a pas beaucoup de combinaisons possibles, une méthode simple et universelle est de juste donner la liste de ces combinaisons. Dans une table. Une table qu'on consulterait à chaque évaluation de la porte logique. Une table de consultation, quoi. Les Anglais appellent ça une lookup table.
Ah ! Une LUT ! Une lutte, hein !
Bon, on a assez perdu de temps. Donc, dans mon FPGA, c'est une réplication en grande quantité de blocs logiques élémentaires dont on peut programmer la fonction et les interconnexions après que le silicium ait été fabriqué. Et quand je dis réplication, c'est au sens propre, physique. C'est la juxtaposition, dans le plan de la galette de silicium, de n fois la même tuile. C'est trop bien ! La fonction de chaque bloc logique élémentaire est comparable à une poignée de puces de la famille 7400. Mettons 2-3 portes logiques et un registre qui est un élément mémoire de 1 bit. C'est la fonction de transfert calculée par ces quelques portes logiques qu'on encode dans une LUT. C'est purement combinatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stockage d'informations, juste une combinaison de l'état courant des entrées. Le stockage, c'est le registre qui s'en charge.
Il a dit 2-3 portes logiques, pas très précis, hein, comme unité de mesure.
Tu as parfaitement raison, c'est une unité marketing.
Oh non !
Déjà, certains FPGA anciens avaient des LUT 3, c'est-à-dire à 3 entrées. Tandis que le consensus moderne serait plutôt à la densification à l'aide de LUT 6. Enfin, tous les FPGA ne sont pas architecturés pareil, leurs blocs logiques élémentaires ne sont pas strictement comparables en termes de quantité de fonctionnalités exprimables. Toutefois, la communauté s'est plus ou moins mise d'accord pour approximer la taille de chaque FPGA en quelques nombres. L'équivalent LUT 4, la quantité de blocs RAM, et éventuellement la quantité de fonctions spécialisées comme des tranches DSP qui contiennent des multipliers câblés, ou des SerDes pour implémenter des liaisons PCI Express.
Combien ça a coûté ?
Dans un FPGA à 5 euros, quelques milliers de LUT à tout casser. Mais ça peut tenir dans un millimètre carré. Dans un FPGA haut de gamme à 5000 euros...
Combien ?
Plus d'un million. Those days that I told something untrue. Would you forgive me if I said I've lied to you? This is my fear, to tell you what I've done. As things come clear, I'm afraid that you'll be gone. But all I know is if you go, at least I've told what's true. Hope you'll forgive me when I say I've lied to you. I'm burning for you. When the truth is best broken, there's nothing of it. Yes, I'm burning up. I'm burning for you. When the truth is best broken, there's nothing of it. How will you kill me for what I'm about to tell? Gently, 'cause you know I'm bound for hell. All I know is I've lost my soul, I'm burning inside. Hope you'll forgive me. Yes, I am lying. Oh, yes, I'm lying. I'm burning up. I'm burning for you. When the truth is best broken, there's nothing I do. Yes, I'm burning up. I'm burning for you. When the truth is best spoken, there's nothing to do. Now you know that I've gone and I've been untrue to you. And once it's told, well, you know there's nothing we can do, yeah. I regret that I let this get so out of hand. I pray this thing that you understand. There's nothing to do. Yes, I'm burning up. I'm burning for you.
Eli Sherry, Burning Up.
Pour parler des FPGA, nous avons la chance d'avoir sur Toulouse un spécialiste du sujet, ingénieur électronicien le jour et passionné de rétrocomputing la nuit. Nous recevons Fred Requin, alias French Shark, concepteur de FPGA pour le traitement d'images, co-créateur de l'émulateur Retro Gaming MCC216, expert du microprocesseur Motorola 68000 jusque dans ses bugs, et espèce protégée, même près des plages.
Ceci est la deuxième partie de l'interview. La première partie a été diffusée dans la précédente émission. La fin sera diffusée dans l'émission suivante. L'intégralité de cette interview est disponible sur le site web de l'émission cpu.pm/233.
CPU carré petit utile.
Comment programme-t-on un FPGA moderne en Node.js? Bon, je dis ça en troll. Pourquoi pas tant qu'on y est en Python?
Rigole pas, Migen, c'est du Python.
Ah.
Ah ben, il y a plusieurs solutions. Si on a de la logique à perdre, on peut faire du HLS. Donc du High Level Synthesis, et sinon, ben classique, on reste toujours avec du VGL et du Verilog.
Des langages qui ont fait leur preuve.
Exactement.
Alors justement.
Quelle est la différence entre Verilog et VHDL? Tu nous as dit qu'il y en avait un qui venait du Mondada, un qui ressemblait un peu plus au C. Est-ce qu'ils ont la même sémantique, le même niveau d'abstraction? En particulier, il y a le nouveau Chisel de la fondation RISC-V.
Pour moi, oui, VHDL et Verilog, ça permet de décrire la même chose, donc de décrire du hardware. J'ai une préférence personnelle pour le Verilog, parce que je le trouve beaucoup plus simple, je trouve les outils beaucoup plus aboutis.
C'est une question de syntaxe ou c'est quand même vraiment les constructions du langage qui font la différence pour toi?
Le Verilog est moins verbeux, donc en fait, au final, on programme plus vite.
Productivité.
Voilà, il y a un gain de productivité, les outils sont meilleurs, mais bon, hélas, l'Europe fait du VGL.
Et du coup, en comparaison avec ce nouveau chisel, alors chisel, ça veut dire ciseau à bois, et donc pour sculpter du silicium, on comprend bien l'idée de la fondation RISC-V pour leur nouvelle génération de processeurs. T'as regardé ce que va laisser le langage?
J'ai un peu regardé, mais je suis pas trop fan. J'aime pas trop rajouter trop d'abstraction dans le VHDL. J'aime bien rester dans un langage où je comprends ce que le langage va créer au niveau hardware, ce qui me permet de bien optimiser le design.
Toi, quand tu lis ton HDL, tu vois les portes logiques qui vont être instanciées derrière?
Oui, je peux estimer le nombre de luttes en fonction de la complexité du if ou du case ou de trucs comme ça, oui, effectivement.
Mais alors,
qu'on
du coup,
a l'habitude, oui.
Du coup, ce type de langage, est-ce que justement, on peut leur dire, non, je sais pas comment ça marche, il y a peut-être une compilation, un truc comme ça, et on peut mettre en paramètre, attention, tu as un nombre maximum de portes logiques possibles? Où il y a peut-être des systèmes à passes multiples, comme le font certains langages.
Ouais, mais c'est pas vraiment le nombre max de portes, c'est le nombre de niveaux de logique entre deux flip-flops qui est important. C'est ça qui va déterminer la fréquence.
Alors ça, c'est parce que en logique synchrone, il faut que tous les changements de signaux à travers les portes aient eu lieu avant le top d'horloge suivante.
Exactement. Pour respecter ce qu'on appelle les temps de setup et de hold.
Or, d'accord. Les portes logiques, elles vont pas à une vitesse infinie.
Les portes logiques, et le routage.
Il faut traverser les petits fils électriques à
oui,
travers...
Oui, parce que les portes logiques, c'est très très faible, c'est en dessous de la nanoseconde. Mais le routage prend aussi beaucoup de temps.
Donc, tu nous dis, ce qui prend du temps, c'est pas tant que les transistors basculent, mais traverser le silicium à la vitesse de la lumière.
Oui, sauf que c'est plus la vitesse de la lumière, depuis longtemps.
C'est plus lent que la vitesse de la lumière, oui. Je me rappelle qu'il y a l'indice de réfraction.
C'était déjà 2/3 de la vitesse sur du 50 ohms, et là on est sur des fils tellement petits que on est encore plus bas que ça, quoi.
Alors rassurez-vous, la vitesse de la lumière va toujours à la vitesse de la lumière, mais dans le vide. Or là, c'est pas dans le vide, c'est dans un métal conducteur, et donc la vitesse de la lumière, enfin la vitesse de l'électricité dans le métal conducteur, c'est plus lent que la vitesse de la lumière dans le vide.
On a déjà changé de métal en cours de route. Au début, on était avec de l'aluminium, maintenant on est avec du cuivre.
Et le cuivre est plus lent que l'aluminium?
Non, je crois qu'il est plus rapide.
Un peu plus rapide. D'accord.
Faudra que je révise là.
Ouais, là, c'est vraiment de la physique des semi-conducteurs.
D'accord.
C'est très pointu. Ouais.
Toi, on mettra les références dans la documentation de l'émission.
Je recommande une chaîne YouTube d'ailleurs là-dessus, qui s'appelle Asianométrie. bon, c'est un anglais.
Qui est très bonne, avec plein de sujets différents, mais effectivement, il a fait des sujets sur les FPGA récemment.
Voilà, il a fait des sujets sur les technos inventés par IBM.
Pour en revenir au langage, ça fait des années, des décennies que l'on promet du haut niveau. Alors déjà, système C, je suppose que c'est, ça veut dire plus proche du langage C et tout ça. C'est quoi? C'est de l'effet d'annonce? C'est, allez, je vous promets un truc, c'est pour pas que vous achetez trop vite chez la concurrence, attendez un peu, venez chez nous.
Alors, le système C.
Aïe.
Le système C, c'est pas mal pour modéliser des systèmes complexes. Mais si on regarde, en fait, le système C, c'est une bibliothèque qui est rajoutée au C++.
D'accord.
Donc, en fait, on utilise le C++ pour faire du HDL.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire un garbage collector pour les transfos non, pour les transistors non utilisés?
Non, non, ça se situe pas à ce niveau-là. Le système C permet vraiment de modéliser à haut niveau des systèmes complexes.
Une carte entière, y compris les interconnexions entre les circuits.
Ouais, souvent on met du microprocesseur, on met un peu de tout autour, quoi.
Donc, ça suppose de réutiliser des modèles existants qu'on trouve dans des bibliothèques.
Oui, ben ce qui se fait, c'est de, par exemple, s'interfacer avec QEMU. Qu'on fait tourner sur un thread séparé et avec un protocole particulier entre les deux threads, on a un CPU qui va discuter avec de la logique simulée, quoi.
C'est ça qu'on appelle le co-design? D'exécuter du logiciel et du silicium en parallèle?
Co-design ou co-simulation?
Co-simulation.
Ouais, co-simulation, ouais. Co-simulation, dans mon cas, j'en fais quand j'ai, par exemple, un modèle en C que j'utilise pour valider mon design FPGA. Donc je fais tourner les deux en même temps et je compare les résultats que sortent les deux. Parce que je m'attends à ce que mon modèle en C soit ce qu'on appelle soit bit accurate par rapport à mon FPGA.
Là, tu
inversement.
Tu veux dire donc l'algorithme, la transformation
l'algorithme,
appliquée par l'algorithme.
Ouais. On est proche en fait des méthodes de développement, ce qu'on appelle du behavior driven development, puisqu'on compare les deux, quoi.
Oui, oui, on compare les deux, oui.
Moi qui suis complètement profane, hein, comparé à Benoît justement sur les FPGA, moi j'ai vu qu'il y a des opérateurs de cloud comme AWS, donc Amazon, ou Azure, Microsoft, qui proposent du FPGA as a service. Alors là, j'avoue, je me suis posé la question, mais pourquoi? Et du coup, comment marche la facturation?
Ah ben ça marche, c'est les facturations, j'imagine, à l'heure ou à la minute. Le but, c'est d'accélérer certains algorithmes. Il faut d'abord développer, bien sûr, son algorithme dans le FPGA. Et ensuite, faire tourner sur le serveur distant.
D'accord.
Le but est juste de louer une ferme de FPGA pour un algorithme massivement parallélisable.
Ouais.
On dirait que c'est fait pour du Bitcoin.
Bon, effectivement, c'est une nouvelle tendance. Toi qui es expert sur le sujet, est-ce que tu vois d'autres sujets émergents à suivre de près?
Bien évidemment, les FPGA suivent la loi de Moore, comme le reste de la microélectronique. Récemment, AMD et Intel ont commencé à faire du multi-die, ce qu'on appelle, qui permet en fait d'améliorer les yields, ce qu'on appelle les yields de fabrication, d'avoir des puces plus petites et de les mettre ensemble. Il y a la même chose qui arrive sur les FPGA, donc faire du multi-die, soit pour avoir un FPGA plus gros, soit pour avoir un FPGA et une RAM.
Quand tu dis multi-die, tu parles des chiplets, là, comme fait AMD?
C'est ça, chiplets, ouais. Les chiplets,
ils décomposent dans un package.
Intel aussi le fait.
Plusieurs puces dans un même package.
Ouais, ouais. Quand on veut mettre de la RAM, on met ce qu'on appelle de la HBM, qui est la High Bandwidth Memory, qui est une mémoire avec 1024 fils en parallèle, ou voire plus.
Ce qui serait pas réaliste sur un circuit imprimé.
Exactement. Donc ça existe aussi avec des FPGA.
Donc ça permet d'avoir de la mémoire à très basse latence?
Ouais.
Sans payer le prix de la sérialisation des accès en rafale, des accès burst?
En fait, on a toujours la latence, mais on a plusieurs canaux qui bossent en parallèle.
Au passage, alors c'est une question intéressante, tu as en tête les chiffres de latence des accès mémoire? Dans ce genre de mémoire très intégrée, très proche du...
Ça doit être la même chose que les autres, parce qu'en fait, la DRAM, la latence, elle est liée à la technologie. Donc, le condensateur qui stocke le bit, en fait, il a pas beaucoup évolué, quoi. Il s'est réduit, mais au niveau technologie, on est passé, on va dire, de 80 nanosecondes il y a, je sais pas moi, 20 ans, à 50 ou 40. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a accéléré l'interface.
D'accord. Donc avec la HBM, ouais, on a poussé.
Ou même avec les DDR, on a accéléré l'interface.
On a poussé la RAM dynamique dans ces derniers retranchements, mais ça reste relativement lent. Et du coup, ça ne fonctionne bien que si, de toute façon, l'algorithme est très fortement parallélisable, ce qui convient bien à tes applications de traitement d'image.
Oui, et donc les fameux mode burst sur les RAM, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à lire qu'un seul mot, il faut en lire plein.
Ouais, du coup, je suppose qu'il faut continuer à mettre de la mémoire cache directement dans la bloc RAM interne du FPGA quand on n'a pas un algo suffisamment parallélisable.
C'est ça.
Et quand un FPGA plante, comment on le débug? Est-ce qu'on a un crash report, une stack trace comme un logiciel?
Hélas non, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on appelle le FPGA-L.
L'enfer du FPGA.
L'enfer du FPGA. Cette expression vient d'un blog de ZipCPU, que je recommande, qui explique tous les méandres du débugage de FPGA. Pour éviter ça, le mieux c'est de faire de la simulation et de modéliser le mieux possible son design avant de passer sur carte.
Et c'est quoi en fait le type de plantage que l'on a? C'est un plantage de programmation, c'est un plantage dû à la manière dont le processeur est fait avec un réel bug dans
Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de processeur, c'est une donnée erronée, donc la donnée ça peut être un retour que l'on a sur un message, ça peut être si on a du traitement d'image, on va avoir des pixels avec des couleurs bizarres, c'est très varié.
T'en es à combien de mois de psychanalyse sur ton dernier bug?
Ah non, on peut pas vraiment dire ça. Par contre, on peut dire qu'il y a un petit côté autistique quand on fait du FPGA. Parce que se tromper d'un bit et hop, tout part en vrille.
Et j'imagine qu'il faut s'immerger, se mettre dans la zone pour arriver à débugger, à retrouver ce qu'on a voulu faire dans son algorithme.
Non, après c'est une habitude, je sais pas comment dire ça. Ça peut être frustrant.
Mais du coup, donc le débugage se fait comment? Ça se fait par la carte de prototypage sur laquelle on est aidé par les logiciels autour, ou bien il faut y aller avec la sonde électronique, les pinces que l'on met sur la puce?
Non, en fait, le débugage, c'est par son JTAG. Mais pour pouvoir accéder à la logique, il faut rajouter dans le design un genre d'analyseur logique qui est intégré dans le design. Donc ça veut dire recommencer une synthèse, etc. Donc une perte de temps.
Et altérer le comportement.
Et puis oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire on approche un petit peu de la physique
quantique.
Quantique.
Exactement.
C'est à partir du moment où on mesure, on n'a pas exactement les mêmes valeurs, évidemment. Donc ça retourne, mais chez moi ça marche.
Exactement.
Ok.
Ouais.
Alors tu nous expliques que tu es obligé de faire ça, si je comprends bien, parce qu'il faut sortir sur des broches externes des signaux de l'intérieur du FPGA que tu voudrais observer. Le JTAG
permet de voir ce qui se passe. On va utiliser certains blocs RAM du FPGA. Bon, bien sûr, il faut qu'il en reste disponible comme stockage d'un mini analyseur logique. Et après, avec le JTAG, on va lire ces blocs RAM. Donc, en différé. Bien sûr, il faut pouvoir définir ce que l'on veut observer, les triggers quand on met sur les signaux. On cherche un bug, mais il faut déjà avoir une idée de où est le bug.
Et tu écris ton propre Verilog pour créer ce petit analyseur logique ou tu l'as prédéfini dans tes outils de développement?
Ce sont des outils intégrés souvent même tout le temps d'ailleurs, dans les logiciels d'AMD, Xilinx, Altera, Lattice, etc.
En tout cas dans les logiciels professionnels.
À parler au bout d'un moment de vitesse, d'horloge, etc., moi j'ai vu dans de la doc commerciale qu'en fait il n'y a pas de fréquence d'horloge sur les FPGA. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont à une vitesse infinie, mais qu'est-ce que fait la gendarmerie?
C'est pas tout à fait ça. Au niveau des FPGA, il y a une fréquence max qui est définie par la technologie, donc ce qu'ils appellent donc le FPGA Fabric. Cette fréquence max oscille, on va dire, entre 300 et 500 MHz actuellement pour des FPGA milieu de gamme.
Ça a quand même progressé. Quand j'étais étudiant, c'était genre 100 MHz.
100 MHz, je pense que c'était pas la fréquence max, c'était la fréquence utilisable. Mais si on regarde dans le datasheet, la fréquence max est entre 300 et 500 MHz. Et si on va sur du haut de gamme, il flirte avec les 1 GHz. Mais la véritable fréquence du design est définie, par l'ingénieur. Par la qualité du code qu'il est capable de faire.
C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, le nombre d'étages de logique combinatoire que tu empiles.
C'est ça.
Précise un petit peu pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire empiler des étages de logique combinatoire et rentrer tout ça dans la logique synchrone?
C'est-à-dire que si on met beaucoup de conditions ou beaucoup de calculs entre deux stockages de données, donc entre deux flip-flops, on va dire.
Donc deux mémoires de 1 bit?
Oui, c'est ça.
C'est ce que tu appelles des registres.
Oui. Et ben, si on met beaucoup de conditions et de calculs, et ben, le temps de propagation à travers ces calculs et ces conditions font que la fréquence maximale d'utilisation du circuit va baisser, quoi.
Ça, c'est parce qu'il faut que donc chaque étage de calcul ait remis à jour sa donnée pour stocker dans le registre suivant.
Il faut que faut attendre la propagation de la donnée.
Donc c'est ça qui fixera la fréquence maximale,
ouais,
qu'on pourra appliquer.
Et donc,
est-ce que c'est forcément la même dans tout le circuit ou est-ce qu'on peut faire ça
non,
par zone?
Non, c'est pas la même, mais là où on a mal travaillé, c'est là où on va avoir un chemin critique et ce chemin critique va dicter la fréquence de tout le reste.
Le pire cas.
Le pire cas, exactement. Bien sûr, après on peut s'arranger et dire ah ben là cette partie-là, je vais baisser la fréquence, je vais la faire fonctionner moins vite parce que j'ai pas besoin de la faire fonctionner très vite et le reste je le fais fonctionner plus vite.
Ah, donc tu peux avoir différentes horloges,
oui,
dans différentes fonctions. J'ai entendu d'un terme qui sont les arbres d'horloge, et nous les informaticiens on aime bien les arbres qui poussent vers le bas. Explique-nous chez toi les arbres d'horloge.
C'est un vaste sujet. Comme on dit précédemment, on a besoin d'horloges pour faire fonctionner le FPGA et surtout les fameuses flip-flops de stockage des données. Et donc les FPGA intègrent entre quelques dizaines à quelques centaines d'arbres d'horloges, ça dépend de la complexité du circuit. Les arbres d'horloges sont faits de façon hiérarchique, donc ils existent au niveau global, régional, ou des fois par cadran, ou certains même sont juste sur les bords du FPGA pour alimenter les I/O.
Et ils servent à distribuer quoi, un top de synchro?
À distribuer l'horloge, donc souvent le front montant de l'horloge que l'on utilise. Des fois les deux fronts, quand fonctionnant en DDR.
En double data rate.
On a des PLL pour les alimenter.
Donc des synthétiseurs de fréquence.
Synthétiseurs de fréquence.
Et que donc tu distribues grâce à ces arbres d'horloge un peu partout dans ton océan de portes logiques.
Exactement. Mais des fois ces arbres d'horloge servent aussi à autre chose, à distribuer les resets.
Et tout ça, ça prend de la place au total dans la quantité de silicium du FPGA.
Oui. L'arbre d'horloge est pré-câblé, donc c'est ça quand même qui est bien. C'est que on n'a pas besoin de s'embêter à le designer. Parce que c'est quand même un problème complexe, un arbre d'horloge.
Oui, puis
il y a des gens spécialisés chez Intel qui font que ça.
Du coup, au moins, les longueurs sont les bonnes. Tous les tops d'horloge arrivent au même moment partout dans le circuit.
C'est ça. Il est équilibré et ce qu'on appelle le skew d'horloge est limité. Donc, la différence entre les tops d'horloge entre les différentes parties du circuit.
Ce qui est sûrement important pour l'analyse de timing dont tu nous reparleras dans les outillages. Mais n'allons pas trop vite sur le sujet. On marque une pause. On se retrouve avec ceci. We'll be right back.
Bud, Mystique.
Vous écoutez Radio FMR. Les FPGA sont populaires pour la flexibilité que seul procure un circuit logique programmable. Mais dites donc, on appelle ça un FPGA, pas un FRGA. Le P, c'est pour programmable. Personne n'a dit que vous pourriez reprogrammer plusieurs fois votre FPGA solidement soudé sur votre circuit imprimé. Et ce n'est pas nouveau. Depuis qu'on a inventé des circuits contenant de la mémoire non volatile, le choix s'est naturellement posé au concepteur, car programmable une fois, plusieurs fois, ou indéfiniment, tout n'a pas toujours été techniquement possible, et même quand ça l'est, il y a des compromis sur le coût, la densité et la durée de vie. En bons ingénieurs, décomposons le problème. Quel circuit a besoin de stocker de l'information et comment stocker de l'information qu'on puisse récupérer dans le dit circuit électrique? Comme notre but est de programmer une puce FPGA, concentrons-nous sur le stockage d'informations directement dans une puce de silicium. Avant l'invention du FPGA, c'était pour les processeurs qu'on avait besoin de mémoire morte, c'est-à-dire en lecture seule, les ROM pour Read-Only Memory, les PROM pour Programmable Read-Only Memory, les EPROM pour Erasable and Programmable ROM, et enfin les EEPROM ou E2PROM pour Electrically Erasable and Programmable ROM. Arrêtons-nous sur la première ère des mémoires reprogrammables. Au début des années 70, Intel invente l'UVPROM pour Ultraviolet Erasable and Programmable ROM. Le silicium est visible derrière une fenêtre de quartz dans le circuit intégré, c'est très joli. Le secret d'une EEPROM, c'est de représenter chaque bit par la charge électrique stockée dans un transistor spécial dont la grille, qui décide si le courant passe, est isolée. Les électrons y sont piégés. Pour charger la grille, on applique une tension élevée, une histoire de feu tunnel. Mais pour décharger la grille, ce qu'avait trouvé Intel, c'était la lumière. On peut choisir la longueur d'onde par la simple géométrie des transistors. Ils avaient donc sélectionné l'ultraviolet afin que la mémoire ne s'efface pas trop facilement. Une bonne semaine en plein soleil. Mais devinez ce qu'on obtient en faisant l'économie de la fenêtre de quartz? Une UVPROM non effaçable, mais programmable quand même. Une ROM programmable une seule fois. Une One-Time Programmable ROM ou OTP-ROM. C'est donc ainsi qu'on fait une PROM non EPROM? Eh bien, pas du tout. Enfin, pas nécessairement. Si une OTP-ROM est bien une PROM, il existe une technologie plus ancienne d'une bonne décennie qui consistait à intégrer des fusibles microscopiques dans le semi-conducteur. Il existe plusieurs technologies, mais le principe est toujours le même. Appliquer un voltage élevé afin de détruire une diode ou un fil de polysilicium appelé polyfuse ou un condensateur appelé antifuse, tous éléments synthétisables directement dans la puce de silicium afin de créer une différence mesurable par la circuiterie de lecture par rapport à ses voisins non encore programmés. Mais ce n'est pas tout. Avant d'inventer ces technologies, les pionniers du semi-conducteur ont simplement dessiné le contenu de la mémoire. Il suffit de choisir de connecter à la masse ou aux 5 volts chaque adresse décodée. Il suffisait donc de dessiner les bons masques lors de la fabrication de la puce. Parce que ça devait être avant la prise de pouvoir par les marketeurs, on appelait ça une mask ROM. Et c'est largement tombé en désuétude, sauf pour les marchés à très gros volume. Et encore, à condition qu'il soit réaliste de créer le contenu une fois pour toutes, sans bug et sans évolution. Le prix est alors imbattable. D'ailleurs, ces puces sont généralement construites en deux temps. Un wafer de silicium où est gravée la logique de décodage et d'adressage, qui n'a plus qu'à recevoir une ultime couche de métallisation décidant quelle cellule lit un 0 ou un 1. Eh bien, il s'avère qu'il y a un marché pour chacune de ces technologies appliquées au FPGA. D'ailleurs, j'ai menti par omission. Le premier FPGA, le Xilinx XC2064, était incapable de mémoriser sa programmation. Ses LUTs étaient de la RAM statique qu'il fallait charger à chaque mise sous tension depuis une mémoire externe. Le plus souvent, le concepteur utilisait celle qui lui convenait des technologies de ROM ci-dessus, mais d'ailleurs, rien n'empêchait qu'un FPGA soit initialisé par un processeur lisant une disquette.
Et alors, le temps de démarrage, tu as vraiment le temps de te faire un café?
Pourvu que ce FPGA ne soit pas lui-même nécessaire au fonctionnement du processeur. La poule et l'œuf. Ok, expliquons rapidement la RAM statique. Il existe principalement deux agencements de mémoire volatile à accès direct sur semi-conducteur. La RAM dynamique, qui n'utilisant qu'un seul transistor par bit, est plus dense et donc moins coûteuse, mais plus lente et plus compliquée à utiliser. Et la RAM statique, qui est essentiellement l'opposé. Plus simple, mais moins dense, donc plus chère et accessoirement plus gourmande en énergie. On rappelle, RAM, c'est pour Random Access Memory. Ce qui traduit bien l'accès direct, mais pas spécialement l'aspect volatile. Cherchez pas, c'est juste que ROM et RAM, ça sonnait bien. Vous voulez savoir comment on dit en français? MEM et MEV pour mémoire morte et mémoire vive. Non, ça n'a aucun sens, mais ça claque! Les FPGA RAM sont toujours d'actualité, ce sont même les plus hauts de gamme, car en matière de temps d'accès, on n'a pas fait mieux qu'un bit de RAM statique. Et ce sont aussi les FPGA les plus grands et les plus chers. Mais ça n'est pas sans inconvénient. Le talent de l'ingénieur, c'est de choisir le meilleur compromis selon l'application. Ces FPGA sont gourmands en énergie, comme tout SRAM, longs à démarrer car il faut justement charger leur SRAM interne, souvent par un bus série économique en pinouille mais peu rapide, ce qui peut prendre plus d'une seconde pour les plus grandes puces, et le tout pour un résultat même pas résistant aux rayons cosmiques. Oubliez le spatial, même dans un avion à 30 000 pieds, ce n'est pas fiable. D'ailleurs, si on attend assez longtemps, même sur le plancher des vaches, cela cause des corruptions. C'est pour ça que dans les data centers, où les machines rebootent moins d'une fois par an, on met de la RAM avec code correcteur d'erreur, alors qu'on en fait l'économie dans nos iBidules. Mais alors, comment c'est-il donc qu'on fait quand on a besoin de démarrage instantané au fond de l'espace pour pas cher ? On fait un FPGA dont les luttes sont non volatiles. Ça existe ! Les FPGA anti-fuse d'Actel sont très populaires dans le spatial et l'aviation. Oui, mais un anti-fuse, c'est à usage unique. C'est le prix à payer. Si vous voulez mettre à jour votre Actel ProASIC 3, il faut en souder un neuf. Certes, vous pourriez le monter sur support, mais dans le spatial, ce n'est pas assez fiable, donc il ne faut pas se rater sur le VHDL, sinon on est bon pour changer la carte entière. C'est pour ce genre de raison que le spatial est légèrement coûteux.
Vers l'infini et au-delà !
Moins cher et plus flexible, alors. Ça existe aussi, ce sont les FPGA EDEPROM, généralement de petite taille et vitesse plus faible que les FPGA RAM, ils ont largement détrôné les CPLD de grand-papa parce qu'ils démarrent instantanément et ne nécessitent pas grande circuiterie externe, tout en gardant l'avantage de la reprogrammabilité in situ, par exemple par JTAG, même si le nombre de cycles de reprogrammation n'est pas infini, car appliquer un voltage élevé, ça use physiquement la grille du transistor.
Alors, tu nous as parlé de masque ROM, mais il n'y a sûrement pas de masque FPGA.
Figure-toi que si ! Il existait par exemple le procédé Hardcopy d'Altera, maintenant Intel, consistant à la fabrication d'une matrice FPGA dont les luttes sont configurées par une ultime couche de métallisation.
Configurée, voilà, c'est gravé dans le marbre, c'est vraiment ultime de chez Figé. Jamais t'ira décaper ça pour reprogrammer.
Exactement. C'est à la fois la force et la faiblesse de cette solution. Elle nécessite un ticket d'entrée conséquent puisqu'il faut finaliser chaque wafer de silicium dans la même usine qui les a fabriqués avant de les tronçonner en puces individuelles à souder sur un circuit imprimé. L'atout de ces puces, c'est qu'elles sont électriquement quasiment identiques aux FPGA Stratix du même constructeur, qui servent donc au prototypage avec toute la flexibilité d'un FPGA reprogrammable, mais qui ont ensuite quasiment tous les avantages d'un véritable ASIC. Elles démarrent sans temps de chargement, sont bien moins chères, et leur programmation étant littéralement des fils de métal, elles sont immunes aux radiations et au vieillissement, ce qui n'est pas totalement vrai du contenu électrostatique d'une EDEPROM. Au fait, mon petit Daskritch, savais-tu que sans aller jusqu'à décaper un boîtier plastique, on peut modifier une puce de silicium avant empaquetage, mais après fabrication, en coupant des fils au laser ? C'est vraiment utilisé chez Intel pour corriger des bugs.
Il m'énerve. T'en as d'autres ?
Curieusement, alors que le stockage d'informations sous forme électrique est bien postérieur au stockage magnétique, ce n'est que depuis les années 2000 qu'on a trouvé comment stocker de l'information magnétiquement directement dans un semi-conducteur, sans bande, ni disque, ni tor, mais en intégrant les régions magnétisées directement dans un wafer de silicium. Et je ne te parle pas de bulles magnétiques, qui n'étaient guère miniaturisées. Il s'agit d'une technologie combinant les avantages d'une mémoire non volatile et d'une mémoire accès direct, si bien que les puces sont nommées MRAM pour Magnetic Random Access Memory. Toutefois, les domaines magnétiques n'étant pas aussi miniaturisables que les transistors stockant les charges électriques du nœud de EDEPROM, les MRAM ne sont pas très denses et donc économiquement limitées à des applications de niche, par exemple pour leur excellente immunité aux radiations. Il n'existe donc pas de FPGA MRAM sur le marché, mais l'idée a bien été proposée depuis les années 2010 et le principal fabricant de MRAM, Everspin, tente de pousser le concept d'un FPGA MRAM pour le marché spatial.
Alors donc, un FPGA, ça peut se reprogrammer zéro fois, une fois, plusieurs fois mais pas trop, ou indéfiniment, c'est ça ?
Vu que t'as tout compris, c'est qu'on a dû bien expliquer. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Fred Requin pour bricoler des FPGA au tréfonds des papates. Fred, je veux créer ma carte électronique. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une solution à base de FPGA ?
Alors, l'avantage principal, c'est que comme un FPGA est totalement reprogrammable, les broches aussi, donc on s'embête beaucoup moins au niveau du routage de la carte.
Donc j'aurai pas de signaux qui se croisent ?
Oui, c'est ça, on peut l'éviter. Beaucoup plus facilement.
Et puis, si je me suis trompé dans le dessin de mon circuit imprimé, eh ben, j'aurais pas à refabriquer un nouveau circuit imprimé, j'ajusterai juste quelques lignes de Verilog.
Potentiellement, oui. Cela dépend. Si on se trompe sur les alim, là, c'est foutu.
Effectivement, les alim, c'est important, surtout les corps circuits. Bon. Donc, je vois bien quand même l'avantage, pour un débutant ou un amateur, gain de temps, gain d'argent. Mais justement, pour apprendre un langage informatique, un langage de programmation, tout ce dont j'ai besoin, c'est un ordinateur. Pour apprendre à utiliser un FPGA, il me faut un kit de développement, ça coûte combien ?
Ça dépend. Chez AliExpress, ça coûte pas cher. Bon, des fois, les FPGA ne marchent pas, mais ça, c'est un autre problème.
Oui, mais ça, c'est normal, c'est AliExpress.
Et est-ce qu'on trouve des cartes de développement avec des vrais bons FPGA dignes de ce nom, pour pas cher ?
Oui, moi, ce que j'aime bien, c'est le upcycling. Donc, si on va voir sur Hackaday, il y a tout un chapitre là-dessus sur le upcycling, c'est-à-dire utiliser des cartes qui ont des FPGA et les utiliser dans un but différent et faire du dev. Donc, il y a par exemple la carte Colorlight qui, de base, servait à piloter des LED que beaucoup de gens utilisent pour faire autre chose.
On est dans quelle gamme de prix à peu près ?
Colorlight, oh, c'est dans c'est quelques dizaines d'euros.
Ok. Et pour combien, justement, là, de portes logiques ? Parce que tu étais dans les unités tout à l'heure.
Il y a du 25 Calut, je crois, avec du ECP 5 Lattice qui doit être à une quarantaine d'euros.
C'est déjà très performant. Voilà. Je sais que un émulateur dont on parlera tout à l'heure, le Myst, avait, je crois, un circuit de 20 ou 25 kilolutes. Et avec ça, on émulait un Atari ST ou un Amiga. Donc c'est déjà très bien.
Mais on peut faire beaucoup mieux. On peut prendre une Napatec. Napatec, en fait, c'est une boîte d'Europe du Nord qui fait des cartes réseau intelligentes. Et donc dessus, on trouve du Stratix sur les vieilles cartes. Et les plus récentes, on trouve des Virtex 4 avec même du PowerPC dedans. Et personnellement, j'en ai acheté pour, on va dire, 20 euros.
Et quand elles étaient neuves, j'imagine qu'elles coûtaient fort cher.
Elles coûtaient très cher, effectivement. C'est du gigabit Ethernet, voire certaines sont en fibre optique.
C'était des cartes spécialisées, data center, accélération.
C'est ça, exactement.
Donc, faut guetter les poubelles de nos opérateurs mobiles favoris pour trouver peut-être du FPGA dedans, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est une méthode. Une époque, on faisait les poubelles des centraux téléphoniques pour récupérer des Motorola 68040 ou 68060. Je savais pas que ça valait aussi pour les FPGA. Merci, Fred.
Quel bon plan!
À propos du modèle économique, les cartes d'évaluation sont vendues parfois moins chères que le circuit qui est soudé dessus. Comment est-ce possible?
Le but, c'est d'attirer le client. Donc, on se débrouille, on offre quasiment la carte. Bon, je pourrais pas dire ça parce qu'il faut quand même la payer.
Mais on veut dire que c'est dans l'optique d'en vendre quelques milliers derrière, quoi. C'est ça, en fait.
Oui, souvent.
T'es peut-être plus intelligent qu'offrir un porte-clés.
Si on veut.
Ouais, ça permet surtout de faire du vendor lock-in, de verrouiller les ingénieurs qui ont appris sur une marque.
Le prix du FPGA, c'est surtout l'outil. Il faut quand même être conscient de ça. Faire une grosse matrice avec des cellules dupliquées à l'infini, c'est pas si compliqué que ça, par rapport à, en comparaison, si on design un microprocesseur. Par contre, l'outil qui va faire le routage de cette matrice-là, là, on est sur des algos avec une complexité exponentielle, et là, ça devient compliqué.
Les processeurs à base de ARM, on en vend des milliards chaque année. Les processeurs de type Intel et tout ça, on en vend quelques centaines de millions. Les FPGA, il y en a combien qui sont en ordre de magnitude ?
Alors, j'ai aucune idée. Je sais que certains FPGA sont vendus en grande quantité parce qu'ils sont mis sur des téléphones portables.
Ah oui, donc on est quand même, on n'est pas dans le million, on est dans les centaines de millions quand même.
Oui, donc Lattice Semiconductor, en fait, avait acheté il y a de ça 10 ans ou 15 ans, je sais plus, 10 ans peut-être, une société qui s'appelait Silicon Blue, les fameux AS40 viennent de là, qui étaient mis dans les téléphones portables. Donc ils étaient très très peu chers, mais ils étaient vendus en très grande quantité.
Et pour apprendre un langage informatique, il me faut un compilateur ou un interpréteur. Quel est l'équivalent du compilateur pour un FPGA ? Est-ce que c'est cher ? Est-ce que ça existe gratuit ? Tu viens de mentionner que l'essentiel du coût de développement d'un FPGA, c'était les outils de compilation. Je fais quoi, moi, en tant que débutant ?
Donc, au niveau des outils, c'est assez marrant. C'est-à-dire que l'outil est en partie gratuit sur les petites cibles et payant sur les grosses.
Alors, quand tu dis petite ou grosse, tu veux dire... dans une même famille de circuits, la version avec 10 fois plus de portes, mais du même design.
Souvent, c'est pas non plus la même gamme. C'est-à-dire, il y a la gamme économique et lente, qui elle marche avec l'outil gratuit. et la gamme rapide qui, elle, va marcher qu'avec l'outil payant. Mais il y a des exceptions. Par exemple, le Spartan 6 à 100 et 150 calutes marchait qu'avec l'outil payant.
Dans le cas de figure où j'aurais besoin d'un FPGA trop gros pour avoir la version gratuite du logiciel du fabricant de FPGA, l'ordre de prix, c'est quoi typiquement?
De la licence?
Ouais.
Il me semble que c'est quelques milliers d'euros.
Quelques milliers d'euros pour un développeur?
Ouais, et pour un an d'utilisation?
Abonnement.
Oui, mais en fait, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, le logiciel marche toujours, mais on n'a pas de mise à jour.
Ah d'accord, il reste gentil quand même.
Et sinon, ça existe en open source?
Oui, il y a Yozis. On appelle ça le couteau suisse des FPGA. Donc cet outil fait plein de choses, dont de la synthèse. Et après, on peut l'utiliser avec un autre outil qui s'appelle NextPNR, qui fait le placement routage. Et à la fin, on a un Bitstream.
Là aussi, outil open source? Ou c'est pas le plus dur de le programmer?
C'est pas le plus dur. Bon, il y a un outil qui s'appelle OpenFPGA Loader qui fait le boulot. Mais de toute façon, c'est du protocole JTAG, c'est standardisé. Voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de problème.
Et comme j'imagine que les fabricants ne distribuent pas d'informations, tout ça a été fait sans doute par reverse engineering, par rétro-ingénierie?
Un peu des deux. On trouve quand même quelques informations sur les formats de Bitstream, donc chez Xilinx de mémoire, et peut-être aussi un peu chez Lattice. J'ai pas eu l'occasion de regarder chez Altera.
Et du coup, quels FPGA sont supportés par Yosis, NextPNR?
Alors, moi j'ai utilisé pour les Ice40, pour les Gowin, donc les Chinois. J'ai pas essayé pour les Xilinx. Je sais qu'il y en a pour les Xilinx. Il y a aussi pour le CP5 de Lattice. Mais bon, la liste est pas exhaustive. Voilà.
Mais c'est quand même...
ça de mémoire, oui.
D'accord, mais c'est quand même varié. Et en plus, plusieurs constructeurs sont supportés par cet excellent logiciel open source. C'est beau.
Oui, mais ça reste quand même sur les FPGA accessibles. Vu que ce sont les bidouilleurs qui utilisent cet outil, on va pas s'amuser à faire ça sur des FPGA qui coûtent le prix d'une voiture.
D'accord. Donc ils ont fait le logiciel open source pour les FPGA pas chers avec lesquels ils avaient envie de travailler eux.
Oui. Bon, il y a une exception quand même. Il y a eu un projet avec les Nano Explore. Dans ce cas-là, c'était payé par l'ESA, je crois. Parce que Nano Explore, en fait, était un FPGA spatial. Il y a eu un budget pour adapter Yosis au Nano Explore.
Donc un appel d'offres lancé par l'Agence Spatiale Européenne.
C'est plus qu'un appel d'offres, le projet est en cours, et peut-être même terminé. Il y a eu une présentation, alors je ne me rappelle plus où, si c'était Fossi ou un autre site d'open source.
Que peut-on construire en FPGA? Une carte vidéo avec son GPU, un baseband 5G, un CPU Intel, un routeur Wi-Fi, un récepteur radio DAB en SDR pour capter FMR? Ça fait beaucoup d'abréviations en trois lettres.
On peut faire beaucoup de choses. Une carte GPU, pourquoi pas? Ça a déjà été tenté il y a 15 ans. C'est pas vraiment allé au bout. Si on se limite à une carte graphique avec juste une accélération 2D, bon, c'est assez simple aujourd'hui et c'est à la portée du bidouilleur. Le plus difficile, de toute façon, ça reste le pilote graphique derrière. Hein. C'est pas le hardware. Pour du baseband 5G, je ne sais pas. Ce n'est pas trop mon domaine. Mais à mon avis, c'est pas pour les amateurs. CPU Intel, si on veut du vieux, oui, si on veut du 486, ça existe déjà d'ailleurs, mais bon, sur des processeurs plus modernes, ça va être compliqué. Et puis, pourquoi faire finalement, vu que ça existe déjà?
Et que ça reste, c'est encore en vente.
Et que c'est encore en vente.
En effet, on peut encore acheter aujourd'hui des 486. Une fois que j'ai programmé mon FPGA et que j'en suis satisfait, puis-je commander un volume conséquent auprès de fabricants de FPGA préprogrammés, ou est-ce que ça vaut pas le coup?
Chez Altera Intel, il y avait cette possibilité, ça s'appelait le hard copy. On commençait, on faisait du prototypage avec du Stratix, donc c'était le cas entre le Stratix 2, 3, 4, 5. Je pense que pour le 10, ça a disparu, cette possibilité. Et donc... Altera nous fournissait un hard copy équivalent au Stratix, qui était un FPGA figé, en fait, au niveau de son routage.
Et ils faisaient ça comment? Ils refaisaient une couche de métallisation? Ils avaient une ROM pour charger le bitstream directement depuis l'intérieur du FPGA? Enfin, de sa version hard copiée?
C'était une couche métallisation parce qu'il y avait plus du tout de bitstream, quoi. C'était directement.
Donc c'était figé.
C'était figé. Ça allait d'ailleurs un poil plus vite. Ça consommait moins, du coup.
Il n'y a plus besoin de booter, du coup.
Ouais. La partie routage était figée, donc on avait moins de transistors.
Zéro temps de démarrage.
Zéro temps de démarrage, oui.
D'accord. Et une fois que j'ai passé le stade du débutant, y a-t-il de la demande professionnelle dans la programmation de FPGA?
Il y a une demande. Alors, c'est quand même assez marrant parce que c'est relativement restreint, je dirais, au niveau français. Si on s'amuse à regarder sur l'APEC, on trouve 200 offres d'emploi.
Ah oui, quand même?
Oui, non, mais en comparaison, logiciel embarqué, c'est 1 000 000, et logiciel tout court, c'est 14 000, quoi, sur la France.
Ouais, donc, non, mais je trouve que 200 postes, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de boîtes.
Oui, c'est un marché de niche qui existe. Il y a 6 ans, j'avais fait le même exercice, il y avait déjà 200 offres d'emploi, donc c'est assez constant.
Et est-ce que c'est un tiers à Toulouse, un tiers à Lyon, un tiers à Paris?
Ah oui, il y en a beaucoup sur Toulouse, sur Paris, oui, effectivement, oui. Et un truc marrant, par contre, c'est qu'il y a 6 ans, Java, HTML, Web, c'était 20 000 postes.
Mm-hmm.
Maintenant, c'est 1 000, quoi. Donc, on sent que l'IA est passée par là.
On a eu leur peau.
Ouais.
Il faudrait pas salopard
que il faudrait pas que l'IA ait notre peau aussi.
Salopard.
Beaucoup. Avez-vous entendu parler du Front de Libération des FPGA? Rassurez-vous, c'est politiquement correct, à moins que vous trouviez le logiciel libre subversif. Car c'est de cela qu'il s'agit. Libérer les logiciels de programmation de FPGA qui sont historiquement très fortement verrouillés par les fondeurs. Un comble pour des puces qui libèrent le concepteur de la rigidité du flot de développement d'une carte électronique figée. Paradoxalement, à l'époque des PAL, Programmable Array Logic, ses ancêtres des FPGA, l'organisation interne des bits de configuration et la méthode électrique pour charger ce contenu dans une puce étaient généralement documentées, car la logique elle-même était tellement simple qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que l'expliquer au concepteur, par ailleurs déjà habitué à manipuler des portes logiques élémentaires. En s'étant reculé, on n'avait pas encore inventé les langages de haut niveau comme le Verilog et le VHDL, c'était plutôt l'équivalent de l'assembleur. Mais un FPGA, c'est une autre affaire. Le bitstream, la séquence de bits chargée dans le FPGA, n'a pas d'intelligibilité directement rapportable à l'intention exprimée dans le source VHDL. Il est illusoire de chercher un parallèle avec nos désassembleurs et autres débogueurs langage machine. Le synthétiseur, le compilateur pour électroniciens, est un logiciel éminemment complexe et fortement compétitif, nécessitant des centaines d'années-hommes de développement. Vous savez cette unité selon laquelle si un programmeur peut écrire le logiciel de pilotage d'un paquebot en 6 jours, 6 programmeurs peuvent l'écrire en 1 jour. Et vous croyez vraiment que ça va arrêter un libriste? Certainement pas Clifford Clare Wolf, ni Cottonseed, lui c'est un pseudo. Yosys n'est pas le seul projet de logiciel libre de synthèse FPGA, mais c'est certainement le plus avancé. Il semble qu'à ce jour, cette suite logicielle soit la seule suffisamment complète pour implémenter le flow de développement de bout en bout, partant d'un HDL, ici le Verilog, jusqu'à des puces industrielles comme le milieu de gamme Lattice ECP5, le très abordable Lattice ICE40 et la 7e génération Xilinx qui va du populaire Spartan 7 au très haut de gamme Virtex 7, celui qui colle une extase aux programmeurs et des sueurs froides aux acheteurs quand ils reçoivent le devis.
Oh, c'est chaud.
Depuis 2012, la phase de synthèse est implémentée par le synthétiseur Yosys, suivie du Place and Route Arachne PNR, maintenant remplacé par NextPNR, et ses backends comme IceStorm pour le FPGA ICE40, Treyi pour l'ECP5 et d'autres encore, formant ainsi une suite logicielle couvrant les mêmes étapes que les outils vendus par les fabricants de FPGA. Les tâches annexes comme la simulation sont assurées par Verilator, le chargement par OpenFPGA Loader, et j'en passe. C'est compliqué, hein? C'est exactement ce que je me suis dit quand le grain du FPGA m'a pris et que j'ai commencé l'excellent tutoriel de Russell Merrick sur Nandland.com. Tutoriel qui justement utilisait une petite carte de développement bon marché équipée d'un ICE40. Or, il était hors de question que j'installe la toolchain propriétaire de Lattice. C'est pas que je sois libriste radical, c'est juste que tous ces logiciels de synthèse HDL, ils ne sont disponibles que sous Windows ou à la rigueur sous Linux. Mais l'idée d'installer sur mon serveur personnel des logiciels bourrés de gestionnaires de licences payantes, aussi appelés rootkit, très peu pour moi. Et pourquoi pas Steam tant qu'on y est? Alors que Yosys et Arachne PNR, j'ai pu les compiler sur mon Mac, une machine Unix comme une autre. Faut croire que j'étais pas le premier à parcourir ce chemin, et je sais bien que la récompense est dans le voyage, mais c'est quand même mieux quand on arrive au bout. Ce voyage, c'est celui commencé il y a plus de 10 ans par Fabien Marteau, Soft depuis tout petit et passé au hardware lors de ses études d'ingénieur. En juillet 2015, il a publié un article sur linuxfr.org et depuis début 2015, il tient son blog sur le sujet. Ainsi naquit le front de libération des FPGA. La page clé, c'est la cartographie que maintient Fabien sur l'écosystème des outils libres pour FPGA, qui d'ailleurs ne compte pas que les outils de synthèse cités précédemment, mais aussi toute une palanquée d'alternatives à Verilog et VHDL, comme Chisel, popularisé notamment par l'architecture processeur RISC-V. Eh bien, Fabien a une collection de pages sur les HDL open source. Encore faut-il choisir un modèle de FPGA ? Là encore, vous êtes couvert. Fabien publie régulièrement ses tests de cartes de développement et ne manque pas de détailler quel logiciel libre il a rassemblé pour chaque puce. Parlant de libérer les FPGA, c'est surtout les logiciels de développement pour FPGA que Yosys et quelques autres ont libérés. Mais quid du Silicium ? Figurez-vous qu'il existe au moins deux projets de Silicium open source réalisant la fonction FPGA. PRGA, le FPGA de l'université de Princeton, et OpenFPGA, qui n'est pas l'une des consoles de jeux format Game Boy de la marque Analog. Mais pourquoi le FLF n'en dit mot ? Parce que ça nous fait une belle jambe, à nous les hobbyistes et les électroniciens de PME. Vous avez un fondeur de silicium dans votre garage, vous ? Alors le front de libération des FPGA n'est peut-être pas aussi disruptif que le front de libération des nains de jardin, mais il est nettement plus utile, parce qu'il est pragmatique. Remercions Fabien Marteau de prendre le temps de partager ses expérimentations et cataloguer patiemment les solutions libres, en plus de son vrai métier dans un bureau d'études, où il utilise peut-être des logiciels professionnels propriétaires, mais chut. Fabien M, l'équipe de CPU sera ravie de t'offrir une pinte si tu passes sur Toulouse. Ton engagement et ta passion t'honorent.
Ouais, et plus soyez-nous hein, quand je poste un message annonçant nos émissions sur LinuxFR.
On revient la semaine prochaine pour la fin du sujet FPGA.
C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Dans la série composants, release EX233, FPGA, deuxième partie. Release, l'équipe était composée de Daskrich, Chief Gate Officer, Benoît, Chief NAND Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Nous remercions le Fab Lab Artilec pour nous avoir accueillis et Silicium pour leur soutien logistique. L'intégralité du programme, les extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/233. Vous pouvez commenter et partager. Des chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h pour la fin de ce sujet. Si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Bonjour Monique, désolé, j'ai oublié de te rappeler, je le fais de suite. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.